Il y a un effet très positif puisque toutes les églises ont manifesté leur volonté de signifier l'unité de l'orthodoxie à travers un concile en dépassant et en montrant bien qu'elles étaient capables de dépasser leurs tensions internes. Elles rentrent dans une nouvelle dynamique parce que, vous savez, on définit souvent l'église orthodoxe comme une église de la conciliarité, de la collégialité. Eh bien, la tenue de ce concile va réaffirmer une expérience planétaire panorthodoxe de cette conciliarité. Et je crois qu'il faut rendre hommage au travail et au courage du patriarche Bartholomée qui a porté à bout de bras l'initiative du concile au cours des messages d'introduction qui avaient été donnés par les différents représentants des églises orthodoxes lors de la rencontre de Chambézy il y a quelques jours. Le patriarche de Moscou avait lui-même dit que finalement tous les sujets qui sont encore en suspens ne permettent pas d'envisager la convocation du concile. Le concile a finalement été convoqué au prix de nombreuses négociations, voire de nombreux compromis, mais il a été convoqué, c'est-à-dire que l'activation de ce principe de collégialité est déjà en route, est déjà sur les rails, et très certainement le concile pourra remettre en lumière cette dimension unitive et communionnelle des différentes églises orthodoxes, en faisant en sorte que les églises orthodoxes ne soient pas uniquement une fédération d'églises, mais bien une communion d'églises.
Comment vous expliquez que ce concile, finalement, soit aussi tributaire des conflits géopolitiques aussi?
En tout état de cause, la question du rapport aux politiques ne va pas être posée dans le concile. Le fonctionnement du concile, par contre, et le fait que le concile soit convoqué aujourd'hui officiellement, montre bien que les contingences géopolitiques, finalement, ont été mises de côté. Parce que sur le papier, si vous voulez, l'équation géopolitique n'aurait pas dû permettre la convocation du concile. C'est-à-dire qu'il y a donc une libération en même temps, un processus de libération qui est entamé par les églises orthodoxes, de libération pas au sens d'un mouvement de sécularisation, mais d'une autonomisation du fait religieux à l'égard du politique qu'il va falloir examiner plus en détail dans les années à venir. Mais très certainement, aujourd'hui, la convocation du concile envoie un signe extrêmement positif dans la capacité des églises orthodoxes à s'autodéterminer par rapport aux politiques.
Est-ce que ce concile va pouvoir aider justement à porter une voix orthodoxe dans le monde, peut-être plus unifiée, plus prégnante?
Écoutez, c'est effectivement tout l'enjeu. Être capable de trouver, et je pense que le patriarche Bartholomée l'a très bien dit lors de son allocution au cours de la Divine Liturgie, trouver les mots qui seront compréhensibles aux hommes et aux femmes de notre époque. Effectivement, la tradition orthodoxe est extrêmement riche, et la tentation, lorsqu'on a une tradition extrêmement riche, c'est de se tourner vers le passé et de ne contempler le passé que comme un objet, si vous voulez, un objet de désir qui ne permet pas de se libérer, qui ne permet pas de vivre dans le temps. Aujourd'hui, la convocation du concile, c'est aussi ça, c'est aussi la volonté de ces églises orthodoxes de s'ouvrir aux questions contemporaines, aux questions que pose la modernité. Le traitement, par exemple, de la question du mariage au cours du concile ne pourra pas laisser de côté un débat sur les unions homosexuelles, si vous voulez. Donc il y aura une volonté d'un aggiornamento du langage qui permettra une compréhensibilité, une perception, une appréhension plus dynamique des problématiques contemporaines.
La tenue de ce concile est évidemment une excellente nouvelle aussi pour l'écuménisme. En quoi, justement, cet événement très important pour l'Église orthodoxe va, selon vous, être une pierre de plus dans le dialogue avec les autres églises?
Sur la question écuménique, là, j'aurai un regard un peu plus contrasté. Sur la question écuménique, il y a effectivement un positionnement de l'Église orthodoxe qui va être, pour une fois, clair et commun, mais en même temps qui sera clair et commun à minima, puisque ce sera le fruit de négociations extrêmement difficiles entre des partis, disons, plus libéraux et plus conservateurs. D'autre part, il y a la question des observateurs, et surtout des observateurs non orthodoxes au concile. Les observateurs non orthodoxes ne pourront assister aux séances qu'à l'ouverture et à la clôture du concile. Je pense que là, il y a comment, si on prend l'exemple de Vatican II, il y a un petit rétropédalage, un petit recul.